Faire fructifier son argent, économiser intelligemment, cultiver sa fortune, petite ou grande, peut-être même devenir riche, la recette se trouve en partie dans le livre de Cattell Bosser, Blooming People, le manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie aux éditions K, etc. à Lausanne.
Notre rapport à l'argent en dit long sur nous, notre situation financière est parfois notre baromètre de l'humeur, l'argent et ses chemins répondent à des règles. Si nous savons les suivre, nous avons des chances de cultiver un jardin plutôt fertile.
Cattell Bosser, bonjour.
Bonjour.
Votre livre, c'est un condensé de ce que vous vivez et de ce que vous avez appris en plus de 20 ans dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un livre sur nos rapports à l'argent avec des parallèles sur le développement personnel. On peut extrêmement résumer les choses comme ça.
Extrêmement résumé, ça fait à peu près ça. Ouais. Avec quand même une composante durable, écologique et régénérative. C'est important à souligner.
Alors c'est vrai que l'argent a pris une place énorme dans notre vie, il est un petit peu notre moteur. Personne ne peut prétendre ne pas être influencé par sa situation financière.
On est tous en rapport avec l'argent d'une manière ou d'une autre dans notre quotidien. Il y a quelques personnes qui arrivent à s'extraire complètement de l'usage d'une monnaie ou d'une manière de faire des transactions, mais sinon, globalement, on est tous confrontés à ça.
Et le fait de faire un parallèle avec le jardin, ça nous ramène à la nature, c'est un moyen de nous donner une autre idée de notre rapport à l'argent.
Tout à fait. Dans la nature, dans un jardin, il y a des cycles qui sont à respecter, il y a des processus qui sont à mettre en place, et quand on s'en éloigne, le jardin dépérit finalement. Et finalement, si on compare la croissance financière à cette croissance végétale, on arrive avec des métaphores très très simples et très très intuitives à remettre à jour les mêmes processus.
Alors, on est d'accord, on parle de métaphore, et un jardin, c'est quelque chose qui est très beau, qui est très coloré, mais pourtant, l'argent, aujourd'hui, dans notre monde, il est assez invisible. Hein. Il ne se voit pratiquement plus, hein, puisqu'il passe d'une carte plastique à un compte. Est-ce que ça, selon vous, ça nous rend vulnérables?
Alors, la thématique de l'argent, la thématique du livre, elle est plus sur la régénération personnelle et la régénération des ressources par l'application des trois principes de la permaculture à l'économie financière. Donc finalement, l'argent, il est posé en tant qu'outil, mais pas en tant que finalité. Et puis, l'introduction du livre pose vraiment le fait que 90% de l'argent est virtuel, il y en a très peu qui est dans l'économie réelle. Et j'en appelle finalement les lecteurs à se réapproprier leur rapport à l'argent, à oser le faire réaffluer vers eux pour pouvoir le réinjecter dans l'économie réelle et rétablir un équilibre. Donc c'est qu'un outil finalement, c'est pas du tout une finalité.
Alors il y a ces parallèles avec le jardin et avec les principes de la permaculture.
Oui.
Et puis vous avez choisi quelques insectes également pour donner des métaphores.
Oui, en fait, j'ai repris des archétypes très anciens. Il y a Aristote, en parlait déjà. Jung, il fait aussi allusion, Hippocrate également. Ces quatre grands types de caractères qui déterminent un petit peu des compétences spontanées. Et puis à partir de ces compétences spontanées, on va réussir à faire certaines tâches très très facilement et d'autres vont nous demander davantage d'efforts. Et connaître ces compétences-là dès le départ, ça facilite les choses et ça permet en tout cas de se régénérer soi-même. Quand je vois tous ces gens qui sont en burn-out, qui sont complètement épuisés à sortir de leur zone de confort en permanence, à un moment donné, comme il y a l'hiver dans un jardin, il faut venir se régénérer là où on est spontanément doué.
Mieux se connaître, ça permet de mieux gérer son argent.
Oui. Oui, suivant vos tempéraments, vous allez avoir des habitudes par rapport à l'argent qui vont être différentes. Et si vous connaissez vos failles, vous pouvez mieux mettre en place des choses pour éviter les dérives finalement.
Alors, ces quatre grandes familles, ces quatre insectes que vous avez choisis, papillon, abeille, fourmi ou araignée. Mm-hmm. Alors, la fourmi, on la connaît, on imagine bien quel est son rapport à l'argent, sa façon de le cultiver et de le garder. Pour les autres, en quelques mots, c'est quoi, qui est papillon, qui est abeille, qui est araignée?
Alors, ça dépend de chaque personne, s'il y a un test pour ça sur le site. Mais en gros, le papillon est quelqu'un qui est très très créatif, qui a des idées les unes derrière les autres, et donc un projet chasse l'autre, et rien n'est mené à bout. Donc, il est tout le temps en train d'investir dans de la nouveauté et les choses n'arrivent jamais à maturité pour récupérer l'abondance qui devrait venir de sa créativité. Donc ça, c'est les hyper créatifs. L'araignée va se perdre dans les détails, elle est perfectionniste, les choses ne sont jamais assez parfaites à ses yeux, donc ce sont des produits qui ont du mal à sortir, des choses qui sont couvées pendant des mois, des années. Et puis là non plus, elle ne récupère pas le bénéfice de ce qu'elle fait. L'abeille, quant à elle, elle est extrêmement sociable, extrêmement dans le réseau. Et puis finalement, elle va, dans cette convivialité aussi, dilapider assez facilement son argent. Donc une fois que ces travers-là sont connus, mais on peut mettre des garde-fous assez facilement.
Alors, est-ce que papillons, abeilles, fourmis, araignées ont le droit d'être riches? Tout le monde peut y avoir accès?
Bien sûr. Bien sûr.
Alors, on ne parle pas non plus de Crésus, hein, mais on parle déjà de confort.
Oui, mais on devrait tous avoir un cadre de vie qui subvienne à nos besoins de manière simple, en exprimant simplement notre talent. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. Les dérives économiques ont fait qu'on en est là où on en est, mais a priori, on a tous notre place, notre légitimité et...
Parce que je dis ça pour les papillons qui nous écoutent, là.
Finalement, il y a tout espoir. Il y a assez d'argent pour que tout le monde soit riche.
Largement. Largement. La création de monnaie, bon là on l'a vu en Suisse suite aux votations sur la création de monnaie, il y a plus de contrôle, donc finalement l'argent il est créé, il est complètement virtuel, il y a plus aucun lien avec la réalité, donc l'argent n'est pas du tout rare ni on n'en manque pas finalement, c'est notre relation à cet argent qui est à revisiter.
Jamais 203, format A3.
Nous sommes ce matin en compagnie de Katel Bosser. Elle vient de sortir un livre « Blooming People », le manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie aux éditions K, etc.
Katel Bosser, vous parlez d'expériences, les vôtres notamment. Vous parlez d'une femme que vous rencontrez à Paris, une personne qui a créé sa propre fortune. Lorsque vous la croisez, vous êtes une jeune adulte et sa manière de parler de l'économie vous surprend. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce qu'apparemment, elle vous a marqué, cette dame.
Oui, oui. Ben voilà, moi j'étais toute jeune entrepreneur et puis c'est vrai que j'avais un rapport assez banal à l'argent. J'étais plutôt dépensière. Et puis j'ai bien compris qu'en me mettant à mon compte, il allait falloir que j'aborde cette question de l'argent pour durer dans le temps. Et du coup, j'ai cherché à m'approcher de personnes qui avaient réussi, qui comprenaient comment ça fonctionnait pour m'en inspirer. Et cette femme, à la fois dans sa brutalité et dans sa décomplexion sur le sujet, m'a fait avancer un bout de chemin, oui.
Parce qu'elle vous expliquait comment mettre de côté chaque mois 100 francs sur votre salaire en vous disant ben à chaque fois après on peut doubler hein, on peut passer de 100 à 200 de 200 à 400 et ainsi de suite jusqu'à 10 000, 20 000 etc. Enfin c'est ce à quoi elle était arrivée apparemment elle.
Oui, tout à fait.
Et ça se coud un petit peu, ça pose des questions.
Ben ça se coud parce qu'on apprend plusieurs choses. On apprend qu'on n'a pas besoin de comprendre tout le processus jusqu'au bout, on a besoin de comprendre les prochains pas. Et que les prochains pas nous rapprochent des solutions, des pas suivants en fait. Donc souvent, avant de commencer quelque chose, on veut comprendre tout jusqu'à la fin, mais en fait c'est un processus. Donc même le livre, les gens comprennent bien leur situation, celle un petit peu avant, celle un petit peu après, puis après ça commence à devenir flou, ils me disent « Ah oui, là j'ai pas trop suivi mais, », mais en fait, plus ils avancent dans le livre, mieux ils comprennent la suite.
Parce que donc, si on revient sur les métaphores, il y avait les insectes tout à l'heure, et puis il y a également plusieurs terrains différents, le désert financier, la prairie vaste, le potager qu'on va cultiver, il y a ces différentes étapes qui sont indispensables finalement, il faut passer par chacune d'entre elles pour pouvoir envisager la suivante.
Oui, tout à fait, alors j'ai identifié ce que j'appelle des paysages d'abondance, il y en a 7 qui vont du désert, donc la situation des dettes, à l'écosystème où finalement on a tellement d'argent qu'on est capable d'influencer et de changer les règles. Donc voilà. Et puis, pendant ces 7 paysages, chacun a ses codes, chacun a ses règles, chacun a ses dynamiques, chacun ses fonctionnements. Et souvent, on ne comprend pas que pour passer de l'un à l'autre, ils font changer de mode de fonctionnement. Donc ça, je l'ai beaucoup appris en voyant des mampreneurs où tout à coup, elles voulaient gagner plus, elles continuaient à bosser plus. Mais si on est seul à un moment donné, on est limité par son propre temps. Donc il faut changer de code, il faut changer de règles et s'entourer d'une équipe pour continuer à progresser. Et ça correspond à un changement de paysage.
Alors, vu qu'on est dans la métaphore, moi je vais rester dedans, hein, est-ce qu'on peut aussi mettre ce rapport à l'argent un peu au rapport du régime alimentaire, qui est un petit peu ce côté, ouais, demain je m'y mets, mais qu'on s'y met pas tout de suite.
Alors, c'est deux choses qui sont très souvent comparées, la nourriture et l'argent, dans ce rapport de la peur du manque en général, ou du trop-plein qu'on n'utilise pas finalement, qu'on stocke et puis qu'on met pas en œuvre. Donc oui, ça correspond très bien. Et dans le côté « je m'y mets aujourd'hui, pas demain », je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui procrastinent, ça correspond à un certain paysage, puis il y a d'autres qui passent à l'action et ça correspond à un autre, où on a dépassé la peur, dépassé certaines peurs, je dirais.
Est-ce que les femmes et les hommes ont le même rapport à l'argent ?
Il me semble pas. Historiquement, le rapport des femmes à l'argent intervient plus tard. J'ai pas les dates exactes, mais en Suisse, je crois qu'on pouvait pas ouvrir un compte bancaire. Enfin, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire jusqu'à il y a pas très longtemps.
Donc, c'est dans le courant des années 70.
Courant des années 70, oui. Donc, voilà, il y a tout un tas d'historique qui fait que le rapport des femmes à l'argent est en tout cas différent du rapport des hommes. Peut-être que les hommes sont plus dans le factuel, voilà, c'est juste des chiffres, et les femmes vont être plus dans la méritocratie, il faut travailler, il faut que ce soit le résultat d'un
effort. L'émotionnel aussi ?
Peut-être plus de peur liée au manque parce qu'il y a des enfants, ça peut arriver aussi. En tout cas, dans l'association des mampreneurs, j'ai pu observer pas mal de blocages liés à l'argent. Et si j'ai beaucoup d'argent, il y a une peur de la réussite qui s'installe, qu'il est important de rectifier rapidement. Ça peut changer des choses dans le couple aussi, si tout à coup la femme réussit mieux que l'homme. Il y a plein, tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu, qui sont un peu internes aux femmes, qui sont rarement exprimés et qu'il faut mettre à jour pour progresser.